RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs du monde entier, voici la nouvelle aujourd'hui. Intitulé « Le sud-est de Sulawesi et la Corée du Sud développent les énergies renouvelables », la jeune génération joue un rôle clé dans le développement de l'agriculture. Voici le bulletin complet. Le gouvernement provincial du sud-est de Sulawesi collabore avec la Corée du Sud pour développer des énergies renouvelables afin d'accroître la consommation d'électricité dans la région de Sulawesi du sud-est. Cité par Antara, le chef du bureau de la coopération et de la communication publique du secrétaire régional de Sulawesi du Sud-Est, Harmin Hamba, à Kendari a déclaré que la coopération était entrée dans la signature d'un mémorandum d'accord à Kendari à la mi-août entre le gouvernement du Sud-Est Sulawesi avec des investisseurs sud-coréens. Il a expliqué que dans cette coopération avec l'investisseur sud-coréen, cultiverait des plantes et en bois de la biomasse. Il est le bois de la calandra afin de répondre aux besoins de l'industrie des granulés de bois en Corée du Sud. Harmin Ramba a expliqué que les granulés de bois sont une sorte de granulés qui deviendront des combustibles de substitution de charbon pour les centrales à vapeur. Suite du mémorandum d'accord qui a été signé, le gouvernement de la Corée du Sud a été invité par le gouvernement de la province de Sulawesi du Sud-Est à faire un exposé aux deux agences ministérielles du pays. L'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture des Nations Unies estime que ce n'est pas le temps que les jeunes générations, notamment la jeune génération d'Indonésie, quittent l'agriculture. Cela a été déclaré par Stephen Rutgard, le représentant permanent de l'OAA pour l'Indonésie et le Timor oriental, dans son entretien avec la voix de l'Indonésie à Jakarta récemment. Selon Stephen, il n'est pas seulement la jeune génération indonésienne qui doit aimer l'agriculture, mais également la production de riz qui est encore concentrée sur l'île de Java. Il devrait être considéré de transférer à d'autres régions comme par exemple Kalimantan.
This is a normal trend. That last point is a normal trend. The younger generation are leaving agriculture, they're moving to the cities.
Actuellement, il n'y a plus de jeunes générations qui quittent l'agriculture pour s'installer en ville et n'habitent plus dans la région. C'est une tendance dans les pays développés et l'Indonésie se dirige vers cet état. De plus, il n'y a plus de terrain en Indonésie pour l'agriculture. Le problème est que vous pensez plus à la production de riz, surtout à Java, des terrains agricoles et on interprise. Et je pense que nous devrons regarder le fait. Le ministre de la coordination, l'économie de l'administration, ces gens en nu pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Et peut-être que la production de riz sera transférée vers des îles plus éloignées, comme Kalimantan. La politique du gouvernement est très importante pour déplacer la production de riz en dehors de l'île de Java. Selon Stephen Lutgard, la jeune génération est le facteur clé du développement de l'agriculture qui a commencé par la création de petites champs et s'installe dans la villa sans migrer vers la ville. Selon lui, il a été fait en tant que symbole d'un investissement car il augmentera la quantité de terres agricoles et de réduire la corruption. Le gouvernement indonésien a renégocié avec le gouvernement sud-coréen au sujet de l'achat des avions de combat KF-X. Cette renégociation a été faite en tenant compte des conditions du marché mondial et de la monnaie en roupies actuellement incertaines. Le ministre indonésien chargé de droits politiques et des droits de l'homme, Wiranto, a présidé une réunion spéciale de coordination au niveau ministériel pour discuter de suivi de l'acquisition de Sukhoi SU-35 et des avions de combat KF-X et FX à Jakarta récemment. Thomas Lembong, le président du Conseil de coordination des investissements, a déclaré que cette renégociation avait pour but d'éviter des questions négatives qui ont un impact sur les relations et la coopération entre les deux pays. L'équipe de renégociation sera dirigée par le ministre Wiranto. L'Indonésie se coopère avec la Corée du Sud au développement d'avions de combat KF-X. IFX, l'avion semi-furtif de la génération 4,5. Cette coopération est au développement d'avions pour atteindre le prototype. Sur les 6 prototypes qui seront produits, un prototype sera soumis à l'Indonésie. Le dernier, le gouvernement indonésien a déterminé que la province des îles de Riau était la porte d'entrée du tourisme maritime en Indonésie. L'arcus international de la bateau Dragon est l'un des moyens d'attirer les touristes étrangers à visiter l'île de Riau, en particulier Tanjung Pinang. Lors de l'ouverture de la 6e course internationale de bateau Dragon dans la rivière Charang, Tanjung Pinang, l'administration des îles Riau a récemment déclaré que la province des îles de Riau a également été proclamée comme zone d'événements touristiques pour atteindre l'objectif des visites des touristes étrangers au niveau national. Raja Ariza a déclaré que la course internationale de bateau Dragon était un événement destiné à préserver les traditions de la communauté de Tanjung Pinang qui existait depuis 1999.
Kami melihat bahwa Event Tanjung Pinang International Dragon Boat Race ini bukan hanya semata-mata untuk mendukung sektor pariwisata saja.
J'avoue que la course de bateau dragon de Tanjung Pinang ne visait pas uniquement à soutenir le secteur du tourisme. Cette activité préserve également de véritables traditions. Elle fait partie intégrante de la communauté maritime de Tanjung Pinang depuis plusieurs siècles. Par conséquent, nous espérons que cette activité sera plus attractive pour augmenter le nombre de touristes dans la province des îles Riau, en particulier à Tanjung Pinang. Selon Raja Ariza, le tourisme est une combinaison d'activités stratégiques nécessitant une bonne gestion. Le gouvernement indonésien va promouvoir le tourisme des îles de Riau vers la région économique spéciale du tourisme indonésien. Le Raja Ariza espère que cet événement sera également une arène pour les athlètes des îles de Riau afin de promouvoir les îles Riau au niveau national et international. Chers auditeurs, c'était notre nouvelle aujourd'hui. À demain.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore avec moi Tiwi dans la mise au point de la semaine. Le titre d'aujourd'hui est « La compétitivité de l'Indonésie s'améliore ». Le Forum économique mondial de 2018, ou FEM, mercredi 17 octobre, a publié un indice de compétitivité mondiale intitulé « Indice de compétitivité mondiale 4.0 ». L'Indonésie occupe la 45e position sur 140 pays. Cette position a augmenté de 2 rangs par rapport au précédent 47. La position de l'Indonésie a encore perdu face à Singapour, qui venait en deuxième position, suivi de la Malaisie, 25, et de la Thaïlande, 38. En premier lieu, les États-Unis ont réussi à devenir le meilleur après 9 années consécutives sur la position de Suisse. Le changement de méthodologie dans le classement du FEM, qui est davantage orienté à la croissance future basée sur la technologie, place les États-Unis au sommet. Dans l'édition de 2018, le FEM, basé à Genève en Suisse, a utilisé une nouvelle méthode. L'utilisation de la technologie numérique est l'une des évaluations. En outre, le Forum économique mondial a également déclaré que la polarisation politique est une reprise économique fragile était essentielle pour devenir, évaluer et mettre en œuvre de nouvelles voies de croissance et de prospérité. Dans son communiqué, le FEM a déclaré que l'indice de compétitivité était établi chaque année afin de déterminer le paysage de la compétitivité mondiale conformément à la 4e révolution industrielle ou Industrie 4.0. Dans cet indice, les États-Unis occupent le premier rang, suivi de Singapour, de l'Allemagne, de la Suisse et du Japon. Les composantes examinées dans cet indice comprennent les institutions, l'infrastructure, l'état de préparation aux technologies de l'information et de la communication, la stabilité macroéconomique, la santé, les compétences, la part de marché, le marché du travail, le système financier, la dynamique des entreprises et la capacité d'innovation. Saadia Zahidi, membre du conseil d'administration du FEM, a déclaré à l'agence de presse de Reuters que les États-Unis étaient un centre d'innovation dont la main-d'œuvre est flexible et le marché est grand. Tandis que Bima Yudhistira, économiste à l'Institut pour le développement de l'économie, des finances, a indiqué que l'indice de compétitivité, toujours au 45e rang, montre que l'Indonésie doit encore apporter de nombreuses améliorations dans divers secteurs. L'un d'eux est la compétitivité des produits locaux sur le marché international. En outre, les conditions de travail, y compris les relations industrielles, sont également en cours d'amélioration, en plus des capacités des ressources humaines de l'industrie numérique qui ne sont pas encore optimales. Conformément à Bima, Carmelita Hartoto, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie pour les transports, a dit que son côté a bien accepté l'amélioration de la note de compétitivité de l'Indonésie publiée par le FEM 2018. Mais, selon lui, il restait encore beaucoup à faire pour faire des améliorations, surtout dans les secteurs de l'innovation et du travail. Selon lui, compte tenu de la conjoncture économique mondiale actuelle, l'Indonésie doit trouver une place car l'économie mondiale recherche actuellement un nouvel équilibre.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 21 octobre. On commence par le 21 octobre 1940. Ernest Hemingway a publié un roman intitulé « For Whom the Bell Tolls ». Ernest Hemingway, lauréat d'un prix Nobel de littérature, a publié le 21 octobre 1940 un roman intitulé « For Whom the Bell Tolls ». Ce roman est considéré comme l'une de ses meilleures œuvres. Ce roman raconte l'histoire de Robert Jordan, un jeune Américain de la Brigade internationale pendant la guerre civile espagnole. Comme explosif de dynamite, il est chargé d'exploser un pont lors d'une attaque dans la ville de Ségovie. Ernest Hemingway est un romancier, écrivain et journaliste américain. Son travail a eu une influence importante sur le développement de la littérature du XXe siècle. Thank you. 21 octobre 1946, l'indépendance de l'île Marshall. La République des îles Marshall est un pays insulaire situé à l'ouest de l'océan Pacifique. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis envahirent ces îles et les placèrent dans la zone représentative des îles du Pacifique. Après la fin de la guerre, les États-Unis ont commencé à effectuer plusieurs essais nucléaires aux îles de Marshall qui se sont poursuivis jusque dans les années 1960. En conséquence, de nombreux résidents de Marshall ont été affectés par des niveaux de rayonnement élevés, de sorte que les demandes d'indemnisation se poursuivent encore d'aujourd'hui. En 1979, la République des îles Marshall a été créée et un accord de pacte d'association libre avec les États-Unis a été signé et est entré en vigueur en 1986. Le 21 octobre 1994, la Corée du Nord et les États-Unis ont signé un accord cadre en vertu duquel la Corée du Nord devait suspendre son programme d'armement nucléaire et approuver les inspections. L'accord cadre entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée a été signé le 21 octobre 1994 entre la Corée du Nord et les États-Unis. L'objectif de l'accord était de mettre fin au programme des centrales nucléaires de la Corée du Nord avec davantage de centrales à réacteurs à eux et pour une normalisation progressive des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. La mise en œuvre de l'accord pose problème depuis le début et s'est terminée en 2003. Les éditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de « On se concentre immédiatement sur les Jeux asiatiques du Sud-Est et les qualifications des Jeux olympiques ». Les auditeurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports évalue immédiatement les Jeux asiatiques de 2018 et se concentre immédiatement sur les Jeux asiatiques du Sud-Est de 2019 aux Philippines et les qualifications des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Comme on le sait, lors du grand événement sportif de la nation asiatique, les Jeux asiatiques de 2018, l'Indonésie a obtenu le plus grand succès depuis la tenue des Jeux. L'Indonésie a remporté la 4e place en remportant 98 médailles, 31 médailles d'or, 24 médailles d'argent et 43 médailles de bronze. Ces résultats ont dépassé l'objectif fixé par le gouvernement, c'était la 8e position et 16 à 20 médailles d'or. Pour que ce succès se continue, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, a ordonné à toutes les branches sportives de ne pas s'attarder sur le repos de leurs athlètes après les Jeux asiatiques, de plus le budget est disponible. Il a également ajouté qu'en plus de l'entraînement national pour les Jeux asiatiques du Sud-Est à Manille, le budget des Jeux olympiques de Tokyo 2020 est déjà aussi disponible. Dans le même temps, le député 4 du ministère de la Jeunesse et des Sports, ou Kemenpora, Mulyana a déclaré que la Kemenpora évaluerait d'abord les Jeux asiatiques dans toutes les branches sportives. C'est parce que l'évaluation est la base de la planification des deux autres activités importantes en 2019 et 2020. Mulyana a ajouté que chaque sport doit soumettre une proposition, puis le projet de budget pour les activités de chaque sport sera soumis en novembre, puis vérifié, et le mois suivant, la signature d'un protocole d'accord commencera. Ainsi, en janvier, la société mère a commencé à recevoir le budget 2019, y compris la conduite d'essai et de qualification. Il a expliqué que la meilleure opportunité d'obtenir un budget était dans les sports qui ont concouru aux Jeux olympiques, où le budget était destiné à améliorer les capacités des athlètes tels que l'entraînement au camp, les essais. Dans le même temps, le Comité national indonésien de sport, ou CONI, a demandé à tous les administrateurs sportifs d'améliorer toujours leurs performances, en particulier au niveau international. Le général Tono Suratman, le président général de la CONI centrale à Jakarta, a déclaré mercredi 17 octobre qu'après la fin des Jeux asiatiques, la direction de la branche sportive nationale devait se préparer aux deux prochains événements internationaux, à savoir les Jeux asiatiques du Sud-Est de 2019 et les Jeux olympiques de 2020. En outre, il y aura en 2020 une semaine nationale de sport en Papouasie. Il a ajouté que si tous les dirigeants de la branche sportive et des athlètes pouvaient mobiliser leurs meilleures capacités, alors l'Indonésie pourrait également réussir dans les deux événements sportifs internationaux.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine Cultural. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id ou à l'application de RRI Play ou à longue cure de 3325 kHz. Aujourd'hui, je vous invite à visiter la province de Sulawesi du Nord pour profiter de la beauté de l'île de Lihaga de Minahasa du Nord. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Les auditeurs, la province de Sulawesi du Nord est un paradis maritime. Et l'île de Lihaga est l'une des attractions touristiques de Minahasa du Nord que vous devez visiter si vous y êtes. Administrativement, cette île d'une superficie d'environ 8 hectares est située au sous-district de Likupang, district de Minahasa du Nord. De la ville de Manado, capitale de la province de Sulawesi du Nord, à Likupang, ou au port de Serai, prend environ 90 minutes. Après être arrivé à Likupang, vous devrez encore voyager d'environ 40 minutes en utilisant un bateau de pêche local, habituellement utilisé pour emmener des touristes à l'île de Lihaga. Le prix de la location du bateau est d'environ 800 000 rupiah pour 20 passagers. Pour aller à l'île de Lihaga, cela prend beaucoup de temps. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, car lorsque vous y arriverez, vous serez accueilli par une étendue de sable fin et blanc entourée par un océan bleu. Avant d'arriver sur cette île inhabitée, vous verrez une vue si belle. C'est une petite île au sable blanc avec des jolies gradations d'eau. Les auditeurs, avant de descendre à l'île de Lihaga, vous pouvez négocier avec la propriétaire du bateau pour faire le tour l'île de Lihaga. Vous verrez l'autre côté de la beauté de l'île de Lihaga. Le littoral de la plage est dominé par des étendues de corail et de sable blanc avec des paysages magnifiques, un paysage enchanteur que l'on trouve rarement dans d'autres sites touristiques. Les auditeurs, on a dit que le paysage sous-marin de l'île de Lihaga est aussi beau que le parc marin de Bunaken, qui est également situé dans la province de Sulawesi du Nord. À l'île de Lihaga, vous pourrez profiter du paysage sous-marin en plongée en apnée. Bien que l'île ne soit pas habitée, vous n'avez pas à vous inquiéter car des installations telles que des toilettes et des vestiaires sont y disponibles. À cette île, vous pouvez également rester sans payer, mais vous devez apporter votre propre matériel comme des tentes et des ustensiles de cuisine car il n'y a pas d'étal vendant de la nourriture. Les auditeurs, en raison de son incroyable beauté naturelle, l'île de Lihaga est l'un des endroits préférés du photographe. Pour cela, ne soyez pas surprise si lorsque vous êtes là, vous verrez des photographes se promener à la recherche de lieux pour capturer la beauté de cette île. Les auditeurs, c'est toute l'édition de l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui parlant de l'île de Lihaga, le lieu touristique intéressant de Minahasa du Nord. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre dans la rubrique de l'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. Cette édition va parler de la langue indonésienne et de plus en plus demandée par les étrangers. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, parlons de cœur de 3325 kHz ou par www.voinews.id. Les auditeurs, d'année en année, l'intérêt des étrangers pour l'apprentissage de l'indonésien augmente. À la fin de 2017, l'indonésien a été étudié dans 45 pays du monde entier. L'indonésien est maintenant de plus en plus demandé en Arabie Saoudite. Le programme de cours de langue indonésienne pour les locuteurs étrangers, organisé par le consulat général de la République d'Indonésie, Jeddah, est toujours encombré de Saoudiens et d'expatriés vivant à Jeddah, dans les villes environnantes. Le consul général de la République d'Indonésie à Jeddah, Mohamed Heri Saripudin, a déclaré que le nombre de parties intéressées par le programme de BIPA continuait à augmenter d'année en année. Avant, ce programme avait lieu une fois par an. Mais cette année, le programme d'enseignement de la langue indonésienne se déroule trois fois par an car de nombreuses personnes intéressées souhaitent étudier. Selon le consul général Heri, de nombreux participants souhaitaient apprendre l'indonésien car ils travaillaient dans le domaine du service aux pèlerins et à la Umrah. Les auditeurs, le Consulat général d'Indonésie à Jeddah a organisé la deuxième vague du programme de BIPA pour 2018 qui a été officiellement ouverte par le Consul général d'Indonésie le lundi 15 octobre 2018. L'ouverture du cours de BIPA 2 a été suivie par 62 personnes, 50 Saoudiens, 8 citoyens de Yémen, un Jordanien, un Américain, et de Mauritaniens et de Pakistaniens. Le président du comité d'organisation, Ahmad Sofiane, a déclaré que dans les deux prochaines semaines, pas moins de 107 participations soumettraient le dossier d'inscription. Il a ajouté que les enseignants de la deuxième du programme de BIPA avaient été emportés de l'Université d'État de Semarang, UNES, à la suite d'un effort de collaboration initié par le Consulat général d'Indonésie à Jeddah avec des universités de la capitale de Java Chantra. Outre l'Arabie Saoudite, l'Université de Vienne, l'une des plus anciennes et des plus grandes universités d'Autriche, ouvre maintenant un programme de la langue indonésienne pour le cours d'hiver d'octobre à janvier 2019. L'ambassade d'Indonésie à Vienne, Danul Doro Parno Hadiningrat, a déclaré que le programme lancé par l'ambassade de la République d'Indonésie à Vienne, soutenu par le ministère indonésien de la Culture, était ouvert aux étudiants et au personnel de l'Université de Vienne. Le programme de la langue indonésienne est actuellement ouvert aux débutants et aux classes intermédiaires. Au niveau débutant, l'apprentissage est axé sur la maîtrise de la langue indonésienne pour la conversation quotidienne. Alors que la classe intermédiaire est plus concentrée sur la maîtrise de la grammaire et le développement des compétences orales et écrites. Cette collaboration a été lancée en 2017. L'ambassadeur indonésien en République d'Autriche, Darmansyah Jumala, a officiellement ouvert le premier programme d'enseignement de la langue indonésienne à l'Université de Vienne, qui a eu lieu pendant la période d'été en mars. Contrairement au cours de la langue indonésienne du semestre d'été précédent, les cours de langue indonésienne de cet hiver font officiellement partie du programme de l'Université de Vienne sous l'égide du département d'anthropologie et de culture sociale de la faculté de sciences sociales. Les étudiants de première année et département qui suivent des cours de langue indonésienne peuvent obtenir 3 points de crédit dans le système d'unité de crédit du semestre qui est applicable à l'université, à savoir le crédit du système européen de transfert et d'accumulation de crédit. Darmansyah Jumala a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Vienne avait bien accueilli la classe officielle de langue indonésienne inscrite au programme de l'Université de Vienne. La langue indonésienne pour les universités et la société autrichienne est nécessaire pour soutenir la coopération dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur entre les universités des deux pays. Cela correspond à la tendance croissante de relations en matière de commerce et d'investissement entre l'Indonésie et l'Autriche. Les auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur cette fois-ci. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bon, Bonsoir, chers amis, où que vous soyez. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour passer quelques minutes avec vous dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vous présente des chansons du groupe vocal s'appelle Saint Romeo. Ce groupe a été formé parce qu'il a été inspiré par le célèbre groupe vocal italien de Divo. Chers amis, voici une chanson intitulée « Semenjak ada dirimu » ou en français « Depuis que t'es ici ». Bonne écoute.
Ku duga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
Jika isu terbuka, selesai dulu. Anda mau boyong, negaryo dia isu terbuka, dan kini justru isu.
Chers amis, voilà la chanson s'intitule Semenjak ada dirimu, en français Depuis que t'es ici, chantée par Saint Romeo. Et maintenant, je vais lire l'email de l'auditeur Mardin Mourad, le 10 octobre 2018. Il a écrit « Bonsoir, comment allez-vous? Je visiterai souvent le site de votre station. Le programme est formidable et vos émissions sont intéressantes. Quel plaisir de vous écouter par Internet. » Nahmouchi Noiri, BP 154, Bicetif, en 9000 Algérie. Nous vous remercions de votre fidélité à la voix de l'Indonésie. Et meilleures salutations à Tim Breyer, de numéro 60 Jalan USG 14, en F, USG 14, 47630, Subang Jaya, Selangor, Malaisie. Merci Tim Breyer d'écouter la voix de l'Indonésie et nous attendons de bonnes nouvelles de vous et restez toujours en contact avec nous. Et aussi bien le bonjour à l'Algérie, à Omar Lassas, adresse BP 530 Bureau de Poste Emir AEK 29008 Masquera, Algérie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie et restez toujours en contact avec nous. Les auditeurs, écoutons la chanson intitulée Chantique ou en français belle, chantée par Saint Roméo.
Kamu cantik menarik, kamu cantik dan asyik. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diri.
Chers amis, la chanson cantique, ou en français belle, est une chanson à succès en 1996, raconte de deux personnes qui sont tombées amoureuses. Les paroles décrivent la preuve de la sincérité des deux personnes. Et maintenant, je vais dire bonjour aux États-Unis, Idriss Boudina et Madame Lupna, 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, PA 5236 USA. Meilleures salutations à nos auditeurs de France, Maryse Morcier, René Durand, Bernard Wetelit de Clermont, Ferran, Jeanne-Marie Monplot et Christiane Gibaudou. Comment ça va, chers amis? J'espère que vous allez bien. À son tour, Joël Lind, José Socorro Soiro Maranao, Afenida Alcide Rocha, 469 Morino, Keara Brasil, 625500000, comment allez-vous? Je vais dire aussi bonjour à Sergi Giovanni via Sibari, 40-98-49 Messina, Camaro Inférieur, Italie. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont écrit ou envoyé des rapports d'écoute. Et merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous et restez toujours en contact avec nous. Maintenant, écoutons les deux dernières chansons chantées par Saint Roméo, intitulées Bukan Modus ou en français Pas Mode et Denganku Lebih Bahagia ou en français Avec moi ce sera plus belle. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Pertama ku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku tak namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu, maukah dirimu
setelah ku katakan
satu cintaku.
Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun jadi aku takkan bohong,
itu saat kita jadi.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Cintanya, berikanlah dia
Yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya. Bisa bercerita kepada langit yang biru, andai bisa berkata kepada awan yang indah,
bahagianya aku hari ini kau telah
jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya.
Aku tahu hati ini memilihmu untuk temaniku selamanya.
Yang pasti aku tahu engkau belahan jiwa, belahan jiwa karena ku jaga.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.